Bon, on va attaquer parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter en 2 heures, ça tient tout juste. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu l'émergence des idées en physique quantique. Donc, c'est un petit peu le niveau Big Boss de la physique. C'est le dernier tableau du 20e siècle. Et c'est donc aussi parmi les choses les plus dures que vous aurez à comprendre pour l'année terminale. Mais en même temps, du coup, c'est tellement dur qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre. On ne vous demandera pas grand-chose parce que, comme certains l'ont dit, il n'y a pas grand monde en fait sur Terre qui comprend réellement la physique quantique. Ça a été dit dans les années 50. C'est peut-être un peu moins vrai maintenant. Il y a peut-être plus de gens qui comprennent. Mais malgré tout, il reste beaucoup de points d'interrogation. Il y a beaucoup de choses à éclaircir. Donc en fait, parler de la physique quantique, c'est en fait essayer de comprendre pourquoi on est dans un monde dans lequel, quand on veut jouer à Pac-Man, on joue sur des tout petits objets comme ça, ou ceux qui sont en ISN, qui voient à peu près de quoi je parle, plutôt que sur des gros objets mécaniques avec des engrenages. La physique quantique, en fait, elle a fait un virage technologique monumental. Si on extrapole la physique du 19e siècle, on se retrouve dans un environnement style steampunk. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement culturel. C'est un peu l'environnement des films j'ai un trou là. Ouais, Tim Burton. C'est-à-dire un environnement avec des engrenages, de la vapeur, etc., etc. Le 19e siècle, il a vraiment amené ça, quoi, la maîtrise de la machine à vapeur. D'accord ? Des engrenages, de la mécanique, etc. Le 20e siècle, et particulièrement les 25 premières années, ont amené la compréhension du monde microscopique, la compréhension de ce qui se passait à cette échelle-là, et ça a donné après l'explosion technologique que vous connaissez, dans laquelle vous êtes complètement immergé, dans laquelle on arrive à implanter une quantité phénoménale d'informations dans un espace extrêmement petit. Alors de quoi on part ? Pour comprendre la physique quantique, on part de la physique classique, d'accord ? La physique que vous connaissez bien, celle du cours de physique de terminale, avec d'un côté une description newtonienne du monde, avec une description du mouvement des objets dans un espace qui est indépendant des objets. Avec la relativité, on comprend qu'il y a un petit peu des problèmes, mais là on est avant ça, donc c'est la description newtonienne telle que vous l'avez appris, un énoncé de sujet de bac qui commence par soit, un boulet, un ballon, un rugbyman, une fusée, enfin n'importe quoi, un objet dans un espace X, Y, Z, un temps, et vas-y, roule avec la seconde loi de Newton, déroule-moi les équations horaires, etc., etc. D'accord ? Normalement, vous connaissez bien, je ne dis pas que vous maîtrisez, mais en tout cas, vous avez essayé de maîtriser, donc vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc c'est la description des objets, des mouvements en termes de trajectoire, c'est bien confirmé par l'expérience, on a les lois de Kepler qui sont comprises, on a le mouvement des objets, l'interaction gravitationnelle, le mouvement des planètes, donc c'est vraiment du haut niveau de compréhension quand on cherche à comprendre l'univers. Dans cette description-là, on a grosso modo deux catégories de phénomènes. Et l'année terminale est résumée par ça. On a commencé par la description ondulatoire, les ondes. Donc une onde, c'est un déplacement d'énergie sans déplacement de matière. Et on a la description newtonienne, donc celle qui parle du déplacement de la matière en termes de trajectoire, etc. C'est Angry Birds. Voilà. Ok, je pensais que ça allait être dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Maintenant, on se pose la question de la lumière. Donc, c'est une question qui date du 16e siècle. Savoir quelle est la nature de la lumière. Vous comprenez bien que quand on est dans un... Soit on est corpusculaire, soit on est... On va décrire le mouvement à l'aide d'une trajectoire, soit on est une onde, et à ce moment-là, on va décrire le mouvement comme la propagation d'une perturbation. Et donc, la question de la lumière, c'est est-ce que la lumière est une onde ou est-ce que la lumière est un corpuscule ? Il y a des arguments des deux côtés. Quand on l'observe à notre échelle, on a vraiment des arguments des deux côtés. Et jusqu'au 19e siècle, on avait quand même tendance à penser que c'était plutôt corpusculaire, parce qu'il y a certaines propriétés des ondes qu'on n'observait pas avec la lumière. En l'occurrence, par exemple, la diffraction. Si on cherche à faire la diffraction avec la lumière, c'est pas évident. Nous, on y arrive au lycée, donc vous savez déjà la suite de ce que je vais vous présenter. Au lycée, on y arrive à faire la diffraction, mais qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire la diffraction ? Des lasers. D'accord ? Avec la lumière du soleil, c'est quand même beaucoup plus difficile à observer, c'est difficile à mettre en œuvre. Et donc, tant que les gens n'avaient que la lumière du soleil, ils avaient tendance plutôt à conclure que la lumière était corpusculaire. Puis bon, au 19e siècle, ils ont beaucoup réfléchi et ils ont fini par voir que la lumière finalement avait des propriétés des ondes, et donc la conclusion du 19e siècle, c'est la lumière est une onde. Ça va ? Bon. Le 19e siècle, il a pondu une théorie qui est absolument merveilleuse, mais tellement compliquée mathématiquement qu'on n'a pas le droit d'en parler en terminale. Donc on l'évoque de temps en temps quand on parle de la relativité, on l'évoque ici. C'est la description de Maxwell de l'électromagnétisme. Elle est fabuleuse pour les physiciens parce qu'on a quatre équations, et avec ces quatre équations, on explique tous les phénomènes électromagnétiques, on explique la lumière. Donc c'est un peu l'archétype d'une modélisation de physique idéale. Quatre équations qui nous permettent de dérouler un ensemble colossal et d'expliquer un ensemble colossal de phénomènes. Donc 19e siècle, 1864, Maxwell qui donne ses équations. Fin du 19e siècle, la physique est à son apogée, on dit. Les gens croient avoir tout compris. On a la thermodynamique, dont on commence à parler un petit peu en cours, en tronc commun, là, on vous a parlé un peu d'échanges thermiques, etc., qui nous permet de comprendre comment marche un moteur à vapeur. On met des moteurs à vapeur partout, on commence à mettre. Il y a des locomotives qui se déplacent dans l'ensemble de l'Europe, le continent américain, etc. Donc on maîtrise le truc. On a Maxwell avec ses équations qui nous permet de commencer à faire l'électromagnétisme, on comprend les courants électriques. Donc vraiment, c'est le top. La fin du 19e siècle, si vous étiez brillant à l'université, on vous déconseillait d'aller en sciences physiques parce qu'on disait il n'y a plus rien à faire en fait, c'est fini. La physique est finie, voilà, tout est fait. Maxwell, il a donné ses équations, Newton, il a donné ses équations. Bon, maintenant, c'est un truc de technicien. Donc, c'était si vous étiez moyen, on vous disait, bah vas-y, va faire de la science. Mais si vous étiez brillant, on disait, plutôt, va faire autre chose. Il restait juste un petit problème. Un petit problème qui paraissait relativement anodin. C'est le problème du rayonnement du corps chaud. Alors, c'est quoi le rayonnement du corps chaud ? Bah, c'est un phénomène qu'on observe dans notre quotidien en permanence. Vous sortez, vous vous mettez face au soleil, ça chauffe. Comment ça chauffe ? C'est un rayonnement électromagnétique. Le soleil produit un rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement électromagnétique, vous le recevez sur votre corps. Ça fait bouger les électrons, ça fait bouger les atomes de votre corps et vous avez une sensation de chaleur. D'accord ? C'est le transfert par rayonnement qu'on va voir dans le cours du rayonnement thermique. Donc, quand on prend un corps, quel qu'il soit, quand on dit un corps, c'est pas un corps humain, hein, n'importe quoi. Prenez un objet, quel qu'il soit, vous le mettez à une certaine température, il se met à rayonner un rayonnement électromagnétique. Vous êtes en train de rayonner un rayonnement électromagnétique dans l'infrarouge. C'est ce qui fait que dans les interventions, vous savez, militaires, police, etc., même quand on est dans le noir, on met des lunettes infrarouges et on arrive à savoir où sont les bonhommes. Parce que vous êtes en ce moment en train de rayonner. Bon, et bien ça, donc c'est un phénomène vraiment très classique, hein. Alors, à 600 degrés, on a un rayonnement qui n'est pas sur l'ensemble du gamme du spectre visible, donc on a un rayonnement plutôt rouge, hein, on voit là, on a un maréchal Ferrand là, et donc le rayonnement est plutôt rouge. Et puis quand on arrive à 2000 degrés, on a un rayonnement qui contient l'ensemble des longueurs d'onde du spectre visible, et à ce moment-là, on a un rayonnement plutôt blanc. Bon, quel était le problème ? Bah, quand on cherche à expliquer le rayonnement du corps noir, ça s'appelle comme ça, rayonnement du corps noir, avec la thermodynamique et avec la physique du 19e siècle, on dit qu'on a un échange d'énergie entre le rayonnement et la matière. La matière produit un rayonnement, ce rayonnement interagit avec la matière, et donc on réfléchit comme ça à l'intérieur de l'objet, et on se dit qu'il y a un échange entre les deux. Et on fait de la thermodynamique avec ça. Quand on fait de la thermodynamique classique avec ça, on a ce qu'on appelle qui a été appelée plus tard la catastrophe ultraviolette, c'est-à-dire qu'on trouve une densité d'énergie du rayonnement qui tend vers l'infini quand la longueur d'onde tend vers zéro. Or, l'expérience nous démontre que la densité d'énergie a un pic à une certaine longueur d'onde, mais elle tend vers zéro quand la longueur d'onde tend vers zéro. Okay ? Ce graphique-là est relié à celui qui a été montré précédemment. Hein, on voit, il y a un pic de rayonnement par ici, à 600 degrés, à 2000 degrés, il y a un pic de rayonnement qui est par là. Mais on voit bien que quand on va dans les courtes longueurs d'onde, on n'a pas un rayonnement infini. En plus, un rayonnement infini, c'est bizarre, quoi. L'énergie qui rayonne à l'infini, c'est pas possible. L'énergie se conserve, donc il faudrait une source d'énergie infinie, donc ça ne marche pas. Donc ça, c'était le problème du début du 20e siècle, le problème de la physique. On avait ce petit souci. Alors, paraît anodin, mais c'est le diable est toujours dans les détails. Et donc, il y a quand même 2-3 personnes à qui ça posait un gros problème. Parmi ces personnes, on a Max Planck. Max Planck, c'est un mathématicien qui s'intéresse au problème de physique, qui réfléchit à ce problème, qui reprend le problème et qui se rend compte qu'en posant une hypothèse toute simple, de dire que les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement sont quantifiés, c'est-à-dire qu'il y a des quantas d'énergie dans les échanges. D'accord ? On échange l'énergie par bloc, on ne l'échange pas de manière continue. Donc en disant les échanges d'énergie sont quantifiés, donc avec la relation énergie égale une constante qui s'appelle constante de Planck en hommage à Planck qui a découvert ça, multipliée par la fréquence du rayonnement, ben quand on postule ça, on trouve une courbe théorique qui accorde plutôt bien à l'expérience. Donc on est content, on a un modèle qui permet de coller à l'expérience. C'est la base hein, du raisonnement scientifique. On fait une manip, on observe, on a des observables et on accorde le modèle pour arriver à coller à ces observables. Donc on est assez content. On a juste un problème colossal, c'est que Max Planck il nous a résolu notre problème mathématiquement, mais on n'a aucune idée de la façon par laquelle les échanges d'énergie peuvent être quantifiés. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas possible. L'énergie, ça ne peut être qu'une grandeur continue, a priori. Vous connaissez très bien l'énergie cinétique ou l'énergie potentielle. Si je prends un objet, et donc vous savez, il y a de l'énergie là, potentielle, je le sens bien, c'est lourd. Tiens, vas-y, Julien, attrape. T'as vu, c'était lourd? Il y a de l'énergie potentielle, d'accord? Quand je prends un objet, ok, je lui fais évoluer son énergie. D'accord ? Je vais faire évoluer son énergie potentielle. Donc je vais augmenter son altitude. Vous comprenez bien qu'il est absolument impossible de faire évoluer son énergie potentielle par quanta. C'est je passe continuellement de cette énergie potentielle-là à cette énergie potentielle-là. Je ne peux pas sauter de là à là sans passer par les étapes intermédiaires. D'accord ? Si c'était possible, alors pour passer du rez-de-chaussée au premier étage, j'aurais juste, comme dans Star Wars, enfin, comme dans les trucs de science-fiction, à dire téléportation premier étage et pouf, j'arriverai au premier étage. Mais ça ne marche pas comme ça, vous savez, il faut se taper les marches une par une. Hein, si vous êtes allé à la Tour Eiffel ou je ne sais pas quoi et que vous avez voulu le faire à pied, vous avez bien compris que c'est continu et c'est pénible parce qu'il faut se faire les marches une par une et il y a. D'accord ? Donc l'idée qu'il puisse y avoir une quantification des niveaux d'énergie, c'est juste une aberration physique. L'énergie, on ne comprend pas comment elle peut être. On peut faire des sauts d'énergie, c'est pas possible, on ne connaît rien dans notre environnement qui fait des sauts d'énergie. D'accord ? Donc, Max Planck il nous résout le problème de manière purement mathématique, mais physiquement, on n'a pas résolu le problème. Ok ? On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Alors, il y a un papier en 1905 qui est la base de la révolution de la physique du XXe siècle. Okay, enfin, il y en a trois en 1905, il y a trois papiers publiés par une seule personne qui vont révolutionner toute la façon dont on envisage la science et qui vont faire qu'on va arrêter de dire « ne fais pas de la physique », on va dire « ouais, vas-y, fais de la physique, on a besoin de cerveau, on a besoin de main-d'œuvre » parce qu'en fait, on ne comprend pas tout. Ce papier, il dit la chose suivante, il dit « la lumière est corpusculaire et la lumière est une onde ». C'est-à-dire que pour expliquer qu'on ait des quantas dans les échanges d'énergie entre le rayonnement et la matière, eh ben on dit, en fait, la lumière, c'est comme si c'était des grains. Et quand la lumière dépose de l'énergie sur la matière, ben c'est comme si elle déposait des grains. Ok ? Vous avez tous vu des films d'action, etc. Quand un mec se prend une balle, il se prend d'un coup un quantat d'énergie. Et ce quantat d'énergie, s'il est au bon endroit, ou mauvais pour lui, ben ça va être game over pour lui. Ok ? Donc, quand on échange d'un coup, si vous prenez un 33 tonnes dans la figure, d'un coup vous allez vous prendre un gros quanta d'énergie et ça va vous écraser et ça sera fini. Donc c'est possible de faire des quantas d'énergie, mais à ce moment-là il faut aller du côté du corpusculaire. Donc c'est pour ça que, alors qui a dit ça? Bah, c'est un employé du bureau des brevets que vous reconnaissez peut-être, Albert Einstein, qui dit que la lumière est corpusculaire quand elle est en interaction avec la matière, mais elle est ondulatoire quand on fait une expérience de diffraction. On a avancé, mais pas complètement. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire que la lumière soit à la fois ondulatoire et corpusculaire ? Vous avez compris ça, qu'on ne peut pas être... Il faut choisir. Quand on est des ondes, les ondes c'est des vagues, hein, en anglais, onde, wave. Quand deux ondes se croisent, deux vagues se croisent, bah, y a pas de problème, elles se croisent. Quand deux matières se croisent, une voiture, deuxième voiture, il y a un problème. carambolage au croisement. Si les voitures étaient des ondes, il n'y aurait pas de problème. On n'aurait pas besoin de mettre des feux rouges. Elles passeraient. D'accord ? Il n'y a pas de feux rouges dans la mer. Les vagues, elles peuvent suivre leur chemin, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez bien qu'on est soit une onde, soit un corpuscule. Mais Einstein propose, pour la lumière, ça ne marche pas comme ça. Son article, il dit une approche heuristique des propriétés de la lumière. En fait, il veut dire, moi, je vais trouver une solution pour que ça marche, mais je ne comprends pas très bien pourquoi. Heuristique, ça veut dire je m'adapte à ce qu'on observe. Donc, voilà ce qu'il propose Einstein en 1905. Bon, ça explique le rayonnement du corps noir, ça explique l'effet photoélectrique, ça marche avec la diffraction. Donc, bien que les gens ne comprennent pas tout à fait pourquoi, tout le monde l'accepte parce que vous avez une théorie qui vous permet d'expliquer différents phénomènes très, très complexes à expliquer. Donc, bon, ça passe. Après tout, c'est la lumière et la lumière, finalement, on a du mal à comprendre ce que c'est. Voilà pour la lumière. Bon. Alors oui, il y a des moments où à retenir, ok ? Il y a des moments où vous remplissez la fiche ressources pour le bac. Donc vous devez retenir, ça vous devez le savoir, vous devez être capable de le dire dans une copie. L'énergie de la lumière est transportée par des photons qui présentent un aspect particulier et ondulatoire. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr de comprendre ce que ça veut dire, c'est pas grave, hein. Moi non plus, je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre ce que ça veut dire. Mais c'est un postulat de base, d'accord, de la physique du XXe siècle. Et l'énergie d'un photon est le produit de la constante de Planck H, je ne vous donne pas sa valeur parce que vous ne devez pas la connaître par cœur, donc ce n'est pas la peine que vous la notez là, et par la fréquence. D'accord ? L'énergie portée par un photon, c'est la constante de Planck par la fréquence. Donc ça veut dire que quand on prend un rayonnement électromagnétique de très haute fréquence, ultraviolet, rayon X, rayonnement gamma, un seul photon porte une énergie colossale. Et c'est pour ça que quand vous arrivez dans un endroit où il y a une source de rayon X, où il y a une source de rayonnement gamma, on vous dit ne rentrez pas, attention, etc. Ça devient dangereux parce qu'un photon porte tellement d'énergie que ce photon, quand il arrive dans le système biologique que vous êtes, il va perturber les interactions chimiques et il va pouvoir générer cancer, mutation, etc., etc. Par contre, quand on est sur les basses fréquences, donc les basses fréquences, ça va être plutôt du côté du rouge, de l'infrarouge, comme vous, en ce moment, vous rayonnez de l'infrarouge, vous rayonnez des photons qui n'ont pas beaucoup d'énergie, et donc vous faites pas mal les uns les autres. Ok ? Il n'y a pas de risque de cancer par rayonnement infrarouge parce que vous êtes à côté de quelqu'un qui rayonne en ce moment un rayonnement infrarouge correspondant à 37 degrés. Enfin, en tout cas, peut-être que oui, mais ça, c'est hyper difficile à démontrer parce que de toute façon, on est dedans, quoi. Donc, c'est impossible. Il faudrait prendre un mec, le soustraire à tout rayonnement, mais à ce moment-là, il va mourir de froid. Donc, enfin, bref, c'est compliqué à démontrer. Donc, voilà. D'accord ? Vous avez compris le truc ? Comme c'est proportionnel à la fréquence, si la fréquence est élevée, donc là, élevé, ça veut dire ultraviolet, rayon X, rayon gamma. Bon, barrez-vous. Si c'est faible, infrarouge, micro-ondes, ondes radio, il n'y a pas de problème. Et la matière alors ? Grosse question. Et la matière ? Donc, quelle est la nature de la matière ? Eh bien, figurez-vous qu'à la fin du XXe siècle, pour vous, c'est clair, un atome, un noyau, un machin, un électron, tout ça. À la fin du XXe siècle, ce n'était pas du tout aussi clair. C'est seulement en 1897 qu'un Anglais, Sir Thomson, ah non, d'ailleurs, il ne doit pas être Sir, Monsieur Thomson, quoi, découvre que la matière est constituée de charges négatives extrêmement petites parce que ce monsieur, il travaille sur les tubes cathodiques. Ok ? Les tubes cathodiques du téléviseur de vos grands-parents ou de vos arrière-grands-parents, je ne sais plus bien où on en est en termes générationnels, mais vous savez, ceux qui sont très très larges derrière et tout petits devant, d'accord ? L'inverse de nos téléviseurs actuels. Donc, il travaille là-dessus, des tubes cathodiques, et il se rend compte que quand on prend certains matériaux, qu'on met un champ électrique dedans, ça génère des toutes petites particules négatives. Et donc, il découvre finalement l'électron et il propose le modèle suivant de la matière. Et il dit, la matière, c'est le pudding modèle. Vous l'avez vu normalement en seconde, parce qu'en seconde, on révise tout ça. Enfin, on révise, oui, parce qu'on le fait aussi au collège. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. C'est le pudding modèle, donc le modèle du gâteau au raisin. On a une substance positive qui est le substrat de la matière. Et puis, il y a des petites particules dedans, comme des grains de raisin, qui sont négatifs. Et donc, si on s'arrange bien, on peut les arracher. Donc, en mettant dans un champ électrique, on arrive à les arracher. et c'est comme ça qu'on invente le canon à électrons. Bon, 1910, cette fois-ci c'est Rutherford, un néo-zélandais. Alors, 1900, on découvre plein de rayonnements. 1890 et quelques, on découvre les rayonnements radioactifs, on découvre la radioactivité. Alors, comme les physiciens sont des grands enfants, ils s'amusent beaucoup. Bon, il y en a qui chopent des cancers et qui meurent, mais ils ne le savent pas encore parce que le temps de développer un cancer, c'est un peu long. Mais ils s'amusent beaucoup à balancer des rayonnements sur plein de trucs. Et Rutherford, lui, il s'amuse à balancer les particules alpha sur des feuilles d'or. Ok ? Pourquoi il fait ça, je ne me rappelle plus. On va retenir que drôle d'idée, mais en tout cas, c'était une bonne idée. Donc, il balance des particules alpha. Vous savez ce que c'est qu'une particule alpha? Vous l'avez vu peut-être en première. C'est un noyau d'hélium. Donc, c'est un gros machin. Hein, si on a en version 21e siècle, c'est un gros machin contenant deux protons, deux neutrons. Donc, c'est des noyaux d'hélium. C'est assez gros. Et il balance ça sur une feuille d'or. Et alors, il s'attend, selon le modèle de Thomson, à ce que les particules alpha elles soient un peu défléchies. Mais il a la surprise de voir que la plupart des noyaux traversent. C'est bizarre ça, parce que si la matière elle est constituée d'un truc positif, il devrait être ralenti, il devrait se passer quelque chose. Hein, si vous courez sur la plage, courez dans l'eau, y a un problème. Quoi. Quand vous courez dans une matière continue, ça devient difficile. Donc les particules alpha, elles devraient... la plupart traversent, sauf certains, alors qu'ils, eux, carrément, peuvent revenir en arrière. Donc c'est comme si les noyaux alpha qui traversent une feuille d'or, ils voient du vide, sauf des fois où ils voient un truc, mais oula, c'est du violent, et ça les fait repartir en arrière. Donc il propose le modèle suivant, qui est de dire que l'atome est constitué d'un noyau. Alors après, il fait des petits calculs et tout, il se rend compte que ce noyau, il est 10 puissance 5 fois plus petit que la taille de l'atome. Un noyau tout petit, c'est le modèle qu'on vous a appris en seconde et un petit peu avant. Et autour, il y a des particules qui se déplacent. C'est ce qu'il propose donc le modèle planétaire. D'accord ? Un noyau, des électrons autour. Ok. Bon, d'accord, les gens disent d'accord. Il y a juste un problème énorme. Rutherford, c'était pas un imbécile. Hein. Il était au courant qu'en disant ça, il disait une ânerie. Pourquoi il disait une ânerie ? Parce qu'il y a un énorme problème. C'est que l'électron qui tourne autour, quand on a le modèle planétaire d'un électron qui tourne autour d'un noyau, on a donc une charge négative qui tourne. Or, on prend les équations de Maxwell. Les équations de Maxwell nous disent quand on a une charge négative accélérée, elle rayonne. Or, vous le savez, pour avoir un mouvement circulaire, même uniforme, est-ce qu'il faut une accélération ou pas? Si. Si vous n'avez pas d'accélération, vous partez tout droit. Donc, pour pouvoir tourner autour du noyau, il faut une accélération qui vous dit « va vers l'intérieur ». Il y a une accélération vers l'intérieur. Donc, une particule chargée qui tourne autour d'un noyau, elle a une accélération dirigée vers l'intérieur. Donc, si elle est soumise à une accélération, elle émet un rayonnement. C'est Maxwell qui nous le dit, croyez-le, mais il est fort, ça marche bien. Donc, elle émet un rayonnement. Si elle émet un rayonnement, elle perd de l'énergie. Et donc, l'électron, il devrait se casser la gueule. Donc, le modèle planétaire, ça ne marche pas. C'est pas possible. Comprenez ? L'électron tourne autour du noyau, il émet un rayonnement, il perd de l'énergie. Comme imaginez un satellite qui tourne autour d'une planète, il émet un rayonnement, il perd de l'énergie, petit à petit, il va finir par se casser la figure sur la planète. Quand on fait les calculs de stabilité des atomes dans ce cadre-là, on trouve, je ne sais plus, genre 10-10 secondes. Un truc du genre, l'univers serait né, 10-10 secondes plus tard, il serait mort. Ça fait déjà quelques heures quoi, qu'on est là, voire quelques jours, voire quelques années, milliards d'années. Donc, le modèle planétaire n'est pas un bon modèle, mais en tout cas, c'est le seul qu'on ait sous la main. Alors, il a fallu, les gens se sont creusés la tête, et c'était un vrai problème. Hein. Et je vous raconte ça avec humour et tout, mais les gens, ils étaient déprimés. Hein. Il y a des gens qui faisaient des dépressions et tout, parce qu'ils ne comprenaient plus rien. Alors vous allez dire, ah bon, faire des dépressions pour la physique, mais ouais, c'est possible quoi. Quand on cherche à comprendre le monde et qu'on comprend rien, ça peut être déprimant. D'accord ? Donc les gens vraiment. Alors Niels Bohr, 1913, on est 3 ans plus tard. Il a une idée. Il dit, on va dire que c'est un modèle planétaire, mais un peu bizarre. Toutes les orbites ne sont pas accessibles aux électrons. Seules certaines orbites sont accessibles. Hein, c'est comme si. Vous avez fait Kepler, donc vous connaissez la satellisation des satellites, la Lune, etc., ou les planètes autour du Soleil. C'est comme si on disait, en fait, non, on ne peut pas aller sur n'importe quelle orbite. On a certaines orbites qui sont autorisées et d'autres non. Donc du coup, les électrons qui sont sur une orbite, ils sont bloqués sur cette orbite, ils ne peuvent pas perdre d'énergie, parce que s'ils perdent de l'énergie, ils vont se retrouver entre les deux, or ils ne peuvent pas y aller, ils n'ont pas le droit. Donc ils restent bloqués sur leur orbite. D'accord ? Modèle qui marche super bien pour expliquer un phénomène que vous connaissez, c'est, vous savez, les spectres des atomes. Grosse énigme aussi de la fin du 19e siècle, pourquoi les atomes n'émettent que certaines longueurs d'onde quand on les excite et pourquoi ils absorbent que certaines longueurs d'onde quand on leur balance de la lumière blanche dessus. Et ben, le modèle de Bohr, il explique parfaitement bien ça. Vous comprenez pourquoi ? Ou pas ? Il n'y a que des orbites quantifiées. Donc l'électron, il est là ou il est là ou il est là. Il ne peut pas être dans les états intermédiaires. Donc quand il change d'orbite, par exemple s'il va sur une orbite plus basse, il aura moins d'énergie, donc il va se libérer de l'énergie. Sous quelle forme il va se libérer d'énergie ? Avec quoi ? Avec de la lumière, avec un photon. Il va lâcher un photon, et il va lâcher un photon avec l'énergie correspondant à la différence entre les orbites. Or, on a vu qu'un photon qui a une certaine énergie, ça correspond à une certaine fréquence. Vous vous rappelez, le E égale H nu ? Donc du coup, il lâche un quanta d'énergie sous forme de photon, donc il lâche une certaine fréquence, donc il lâche une certaine couleur. Nickel. On a un modèle qui nous permet d'expliquer que si je prends un atome, que je l'excite un peu avec de l'électricité, je fais monter les électrons dans les orbites hautes, bah quand il va se désexciter, il va balancer juste certaines longueurs d'onde. Et puis, après, je peux expliquer ça. J'ai un atome qui est bien peinard, là, sur son niveau d'énergie, bien tranquille, bien en bas, mais je lui balance des photons avec toutes les gammes possibles. Bah, si l'atome, il se prend un photon ayant juste la différence d'une orbite, il va se faire absorber, et donc ce qui explique qu'il va y avoir des trous noirs dans le spectre de la lumière reçue qui aura traversé le nuage d'atomes. Ça va, ça se comprend un peu ça ? C'est bien ? Bon. Alors, c'est bien, encore un beau modèle, sauf que, encore une fois, c'est un modèle ad hoc, il marche bien, mais on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi les électrons, ils n'auraient pas le droit d'aller entre les deux ? Mais pourquoi ? Il n'y a pas de raison, quoi. Pourquoi ils seraient bloqués là ? Il n'y a rien dans la physique classique newtonienne qui nous permet de l'expliquer. Et ça, ils y ont passé du temps là-dessus. 1913, c'est ça ? Ils balancent ça. Là, les gens, ils ont essayé, ils ont repris tout Newton, ils ont mis peut-être on s'est planté dans Newton. Mais pourquoi c'est pas possible que l'électron soit entre les deux ? Il faut attendre 1923, donc 10 ans plus tard, un Français, Louis de Broglie, qui propose d'appliquer ce qu'on croit avoir compris de la lumière à l'électron. Et il dit, après tout, pourquoi les électrons ne seraient pas comme la lumière, c'est-à-dire à la fois ondulatoire et corpusculaire. D'accord ? Alors si ça passait avec la lumière, parce qu'encore la lumière on veut bien, on ne comprend pas tout. Les gens quand il a dit ça, ils ont dit il est fou lui. On est en train de parler d'électrons, on est en train de parler de matière. Alors dire que la matière peut être ondulatoire, ça va pas quoi. C'est conceptuellement, il y a un problème. Alors si la matière est ondulatoire, c'est pas la peine de mettre des feux rouges entre le... Ok, c'est pas la peine de... On peut faire rentrer deux voitures les unes dans les autres. Si on commence à dire que les électrons sont des ondes, alors on va dire que les électrons sont des ondes, donc des agglomérats d'électrons sont des ondes, donc les voitures sont des ondes, donc on est tous des ondes, alors c'est bon, on va pouvoir passer au travers des murs, etc. Donc, la première réaction de la communauté scientifique internationale, ça a été n'importe quoi, ça. Ça va pas passer. Et puis, il y en a quand même quelques-uns, un peu barrés, qui ont dit pourquoi pas. Suivons l'idée. Alors, pourquoi ils ont dit pourquoi pas, suivons l'idée ? En science, c'est pas parce qu'on vous le dit que vous le croyez. Hein. D'accord ? Il faut toujours expliquer quelque chose. Bah parce que le modèle de De Broglie, il permet de vraiment bien expliquer les choses. Ouais. On a eu la confirmation expérimentale en 1927 en faisant de la diffraction d'électrons. Okay, donc ça aussi c'est quelque chose que vous devez savoir, ce programme de terminale, savoir qu'on peut faire de la diffraction avec des électrons. Alors pourquoi l'électron est une onde, est une pas si mauvaise idée ? Bah, tout simplement parce que pour les ondes, on sait que quand une onde est limitée, ça peut-être que vous le faites en SP, un petit peu. Enfin, c'était au programme avant. Je ne sais pas trop ce que me fait M. Fourneyron là-dessus. Mais quand une onde est limitée entre deux limites, eh ben, toutes les fréquences ne sont pas possibles. On a une quantification automatique des fréquences. Ok, vous comprenez là, vous avez une corde, comme une corde de guitare qui vibre entre deux points. Ben, elle ne peut pas vibrer n'importe comment. Elle peut vibrer comme là-haut, c'est le mode 1, c'est le mode fondamental de vibration. C'est relié au cours que vous avez eu sur l'acoustique sonore, hein. Le fondamental, les harmoniques, etc. L'explication, elle est là. Donc, vous avez le mode 1, donc la première harmonique, la deuxième harmonique, et on n'a pas, les intermédiaires ne sont pas possibles. Vous comprenez ça? Je ne peux pas faire vibrer la corde d'une manière intermédiaire entre ça et ça, tout en restant fixe sur les deux côtés. Ça se comprend? Donc quand on prend une onde et qu'on la bloque entre deux contraintes, automatiquement, on a une quantification de la fréquence. Quel rapport avec nos histoires d'électrons qui seraient dans l'atome? Eh bien, ça marche aussi pour une corde fermée. Si vous prenez une corde et que vous la faites vibrer, ben, vous ne pouvez pas la faire vibrer n'importe comment. Et donc, si on considère que l'électron est une onde bloquée dans l'atome, et bien automatiquement il y a certains il y a que certaines fréquences qui sont possibles, donc certaines énergies, et ça explique pourquoi certaines orbites sont possibles ou pas. Vous me suivez? Je vous avais prévenu, hein, c'est le niveau Big Boss, hein, donc si vous ne comprenez pas tout, c'est normal, mais ça va, vous voyez à peu près le truc. Dire que l'électron est une onde, c'est un bon moyen pour comprendre pourquoi les orbites sont quantifiées. Bon. Ok, c'est bien, bonne idée. Sauf que, n'empêche qu'on ne comprend rien du tout à comment c'est possible qu'on soit une onde et pas une onde. Je vous propose trois petits films pour reprenant les expériences de diffraction, etc., pour comprendre un peu ce qui se passe, ce que ça veut dire que être une onde ou pas une onde.
Say a marble at the screen. We see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right.
Vous parlez bien anglais, hein, bien entendu. Donc vous avez tout à fait compris ce qu'il vient de dire. Je vais vous expliquer légèrement. On va se mettre là. 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 C'est bien là. Voilà. Si vous êtes une particule et qu'on vous fait passer entre deux fentes comme ça, bah vous n'avez pas le choix, quoi. Vous passez soit à droite, soit à gauche. D'accord? Donc, la figure qu'on va obtenir derrière, si on balance des billes de n'importe quoi, de peinture, au travers de deux fentes, la figure qu'on va obtenir sur le mur qui est derrière sera l'image des deux fentes. Parce qu'en gros, les billes, elles passent soit par le trou A, soit par le trou B. Donc, on va avoir deux traits. Ok, ça c'est pour la matière. C'est normal. Quand vous êtes rentré dans cette pièce, vous n'avez pas pu faire autrement que rentrer par cette porte, même s'il y en avait deux. D'ailleurs, il y en avait deux. Vous auriez pu rentrer par là ou par là. Et au final, si vous étiez rentré un peu vite et que vous étiez explosé contre le mur en face, ben, on aurait eu la moitié de la salle explosée là et l'autre moitié explosée là. Il n'y avait pas possibilité d'interaction entre les deux portes, parce que vous devez choisir la porte. Ça marche? C'est assez simple. Hein. Voilà, donc... La figure obtenue avec deux trous est la somme des figures obtenues avec chacun des trous. Logique, normal, dans la vie de tous les jours, c'est à peu près ce qu'on vit. Ok, la balle passe soit par le trou 1, soit par le trou B. Alors, maintenant, même expérience avec des ondes.
Now, let's look at waves.
Vous connaissez l'histoire.
Striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out.
Quand on considère une onde, vous savez bien qu'une onde, c'est la propagation d'une perturbation. Donc l'onde, elle emplit tout l'espace possible. Et donc quand l'onde, elle arrive sur deux fentes, elle voit, c'est un objet, c'est pas un objet qui voit, mais elle voit, elle interagit avec les deux fentes. Donc il y a une partie de l'onde qui passe sur une fente, l'autre partie de l'onde qui passe sur la deuxième fente. Or, c'est la même onde qui est passée. D'accord ? C'est le front d'onde, il arrive là-dessus, c'est la même onde. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière ? On a deux nouvelles sources d'ondes, mais comme elles sont issues d'une même source, ça veut dire qu'elles sont cohérentes. Quand on a deux sources cohérentes, qu'est-ce qu'on a selon le programme de terminal, premier trimestre ? On a figure ouais, constructive, ça s'appelle figure d'interférence. Donc forcément, les ondes vont interagir, qui est la même chose, c'est le même objet en fait, hein, puisque c'est issu du... Donc ça va interagir avec elle-même et on va avoir des interférences constructives et des interférences destructives. Et donc ce qu'on va obtenir derrière nos deux...
There is an interference pattern on the back wall.
Interference pattern.
Where the two tops meet are the highest intensity.
An interference pattern, donc une figure d'interférence, okay, avec des endroits où on a les interférences constructives, c'est les endroits où la différence de parcours est telle que on est sur les moments où c'est en phase, d'accord, et des endroits où c'est destructif, la différence de parcours est telle que l'une onde arrive, elle est en haut, alors que l'autre, elle est en bas. Donc du coup, ça s'annule en permanence. Donc on a figure d'interférence. Vous voyez à travers cette... expérience de pensée, enfin non, c'est pas une expérience de pensée, mais vous voyez à travers cette expérience que une onde ou une particule, c'est quand même pas la même chose. On est soit une onde, soit une particule. Quand on rentre dans une pièce, soit on rentre par une porte, soit on rentre par l'autre, soit on rentre par les deux, et à ce moment-là, on est une onde. Ça marche ? Ça se comprend ? Bon. Ah, j'ai perdu ma présentation. Voilà, là. Ok. Donc, avec les ondes, la figure n'est pas la somme des deux autres. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec les électrons ? Alors, avec les électrons, le problème des électrons, quand même, c'est que là, on arrive à voir les choses, mais quand on parle d'électrons, on ne peut pas les voir directement, on ne les voit toujours que de manière indirecte. Donc, comment on fait une figure de diffraction ou d'interférence avec des électrons ? Enfin, comment on essaye de le faire ? Eh bien, on fait passer, on prend un canon à électrons, deux trous, derrière... les électrons, ils laissent pas de traces. Hein. Donc derrière, on met des compteurs GGR, des trucs qui font clic-clic-clic quand un électron arrive, et on compte le nombre de clic-clic-clic. On se déplace là-dessus. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc, c'est là où on va savoir. Si l'électron est corpusculaire, alors on devrait obtenir deux belles trucs qui correspondront à l'image. Et si l'électron est ondulatoire, alors on va obtenir une figure d'interférence. Alors, on y va ?
So, when we throw things that
bon, il résume.
Matter through two slits, we get this. Two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron.
C'est hyper important ce qui vient d'être fait là, mine de rien. Parce que quand on pense à la physique quantique, on extrapole ce qu'on connaît de la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Il a dit « Let's go quantum », il appuie sur un bouton magique et on se retrouve aux échelles du microscopique. Il faut bien comprendre que quand on fait ça, c'est quelque chose de pas possible. Puisque nous, on est à l'échelle macroscopique justement parce qu'on est le fruit de plein de trucs. Il y a plein en ce moment, pour me comprendre, vous êtes en train de griller un peu de glucose. Enfin, je regarde les profs de SVT, ça va, je dis pas trop de conneries. Glycogène peut-être. Enfin bon, vous grillez des trucs, il y a plein de réactions chimiques, etc. Ça a lieu au sein de l'atome pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et comprendre, c'est faire des connexions à un certain niveau. Donc pour arriver au niveau microscopique et aller jusqu'au niveau de l'atome, il faudrait pouvoir... Enfin, c'est pas possible quoi. Ce qui se passe au niveau de l'atome, collectivement, ça donne l'expérience qu'on en a là. Et là, on voudrait pouvoir se mettre à côté d'un électron et le regarder. Mais ouais, mais si je suis à côté d'un électron que je regarde, ça veut dire que je suis constitué d'électrons plus petits. Bah oui, il y a un problème quoi. Ok ? Donc, le fait, let's go quantum, on change d'échelle, c'est le problème fondamental derrière la physique quantique. C'est qu'on cherche à comprendre et extrapoler ce qui se passe à un niveau microscopique à partir de ce qu'on voit et ce qu'on expérimente à notre niveau macroscopique. Et entre les deux, il y a 10 puissance 10 échelles de longueur. Un chiffre colossal.
It's a tiny, tiny bit of matter.
Tout petit, tout petit.
Like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble. A single band.
Quand on fait cette expérience juste avec une fente, vous avez vu, on ne voit pas les électrons. C'est ce que je vous explique, on ne peut pas voir les électrons, on ne peut pas être à leur échelle. Mais derrière, on a des capteurs qui voient les électrons arriver. Et vous avez vu, juste avant, on voit les points arriver. D'accord ? On voit véritablement des petits points arriver. Donc là, quand vous voyez ça, vous êtes Thomson, vous découvrez l'électron, vous dites l'électron est une particule. Ok, là, c'est clair, sinon ça serait pas, ça serait d'un coup un seul trait continu. Or, on voit les électrons arriver un par un. Ok. Voilà. Ça, c'est l'essence même de la physique quantique, cette figure-là. Pourquoi ? On voit sur l'écran des petits points arriver, donc ça veut dire que c'est bien des particules qui sont arrivées, mais quand on attend suffisamment longtemps et qu'on prend le temps d'observer l'expérience, on voit que ça a fait une figure d'interférence. Ça, c'est un truc de malade. C'est pas possible. On ne peut pas comprendre comment... Vous avez compris que la figure d'interférence, elle s'obtient d'un coup. L'onde passe des deux côtés et elle interagit avec elle-même de l'autre côté. Comment des électrons qui arrivent un par un... Imaginez, le premier électron, il arrive là. Le deuxième, il arrive là. Comment le deuxième, il sait que le premier, il était arrivé là et qu'il fallait faire attention à ne pas arriver là ou là? Vous voyez le truc? Et puis ça continue comme ça, on voit les électrons qui se positionnent et puis petit à petit, on voit une figure d'interférence se construire. Ça veut dire les électrons, ils arrivent un par un et c'est comme s'ils savaient où étaient passés les autres et où passent les suivants pour savoir où aller se positionner. Ça, ça relève, il y a un gros problème là, d'accord, au niveau conceptuel. Du coup, ça pose la question, mais est-ce que chaque électron passe véritablement par un trou ou par un autre ? Est-ce que l'électron qui arrive, il dit je vais passer à droite, je vais passer à gauche? On se pose cette question-là. Donc, l'idée, quand on sait, c'est ce que je viens de vous expliquer. Comment les électrons peuvent-ils arriver un par un et en même temps former une figure d'interférence? C'est un truc, c'est conceptuellement pas possible. Alors, du coup, l'idée, c'est d'essayer de voir ce qui se passe au niveau des fentes. On va essayer de regarder au niveau de la fente, est-ce qu'on voit passer les électrons? Donc, on va mettre un observateur. Donc un observateur, un measuring device, donc un instrument de mesure. Et on va regarder ce qui se passe au niveau des trous.
Measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. Observing which...
Vous avez compris le truc ? Quand on se met à regarder par où passent les électrons, à ce moment-là, on a disparition de la figure d'interférence et on observe la figure de qu'on obtiendrait si c'était des particules. Le fait d'avoir observé les électrons passer les a rendus électrons qui passent par un trou et par un autre, et donc ça modifie la figure d'interférence. On n'a plus une figure d'interférence. Alors c'est bizarre, comment c'est possible que le fait d'observer quelque chose modifie une figure? Ça nous paraît bizarre parce que dans la vie de tous les jours, quand je vous regarde ou que je ne vous regarde pas, ça ne change pas grand chose. Enfin, quoi que, pas tout à fait, un prof qui regarde des élèves, ça change un peu. Mais dans la vie de tous les jours, voilà, si je regarde la voiture qui est là-bas ou que je ne la regarde pas, bon, a priori, il ne se passe rien. Mais parce que dans la vie de tous les jours, j'observe des objets macroscopiques qui n'ont pas d'interaction avec la lumière. Mais l'électron, il est tout petit. Donc quand je le regarde, je lui mets de la lumière dessus. Il a dit « un experimental device ». Comment je fais pour regarder un électron? Je vous ai dit, c'est pas possible de regarder un électron. Il va falloir que je lui envoie de la lumière dessus et puis que je mesure la façon dont l'électron a interagi avec la lumière. Sauf que l'électron, il est tellement petit que quand vous interagissez avec lui, vous le modifiez. Donc quand j'essaye de regarder par où, par quel trou l'électron est passé, je le romps à ce moment-là, électron qui est passé quelque part, et je romps la figure d'interférence. Voilà la façon dont on envisage les choses en physique quantique, quoi. C'est expérimentalement comme ça. Ok, c'est pas. Il faut bien comprendre. C'est pas des délires de physiciens qui sont, je sais pas, qui ont été bercés un peu trop près du mur et qui ont tendance à inventer des trucs incroyables. C'est véritablement ce que l'expérience nous dit. L'expérience nous dit, si j'observe pas les électrons dans le chemin entre le canon à électrons et le système de mesure, j'obtiens une figure interférence. Si j'observe les électrons, j'obtiens une figure correspondant à des corpuscules. Donc, les particules ne sont pas des corpuscules a priori. Je ne peux rien dire de ce qui se passe entre les deux. Ce que les gens ont appris à penser à partir des années 1920, c'est d'arrêter d'imaginer ce qui se passe entre les deux. Vous, vous l'imaginez encore, c'est normal. Vous vous dites, ben, l'électron, il passe, etc. Ce que nous dit l'expérience, c'est arrête de penser ce qui se passe entre les deux. Ne dis rien, ok ? On ne pense pas ce qui se passe entre les deux. Les propriétés ne préexistent pas à la mesure. Ça, c'est la grande idée de la physique quantique. C'est au moment où je fais la mesure. Donc si je construis un système de mesure où je ne fais qu'observer ce qui se passe derrière deux trous, j'obtiens une figure d'interférence. Si je construis un système de mesure où je regarde par quel trou ça passe, j'obtiens à ce moment-là pas une figure d'interférence. Et j'ai transformé les électrons en corpuscules. C'est la double nature de la matière. Il faut abandonner la notion de trajectoire. La notion de trajectoire n'a un sens pour les électrons que quand c'est ça que je suis en train de regarder. Si je veux regarder la trajectoire, mais à ce moment-là, je rends les électrons particulières en disant que c'est une trajectoire. Et la grande idée de la physique quantique, c'est de dire que les particules, alors en anglais, ils ont un mot, ils disent, il ne faut plus dire particule, il faut dire particle, donc un mélange entre wave et particule. Ok, donc en français ça donnerait onduscule ou un truc comme ça, quoi. Et c'est la matière, l'électron est un onduscule, c'est-à-dire une onde dans certaines conditions, un corpuscule dans d'autres conditions. D'accord ? Voilà la grande idée que vous devez retenir de la physique quantique au niveau particulaire, enfin au niveau microscopique, onde ou particule, la question se pose selon l'expérience. Alors comment ça marche concrètement ? Parce que pourquoi on ne l'a pas découvert avant ? Pourquoi tout n'est pas comme ça ? Pourquoi je peux parler de ce verre en le chosifiant, en disant ceci est un verre contenant de l'eau, qui une certaine, etc. C'est pas une onde ça. Okay ? Et moi j'arrive à interagir avec, je ne suis pas une onde. Donc pourquoi au niveau du microscopique on est obligé de jouer entre onde et particules, et pourquoi au niveau macroscopique on joue plus ? Bah, là il y a une formule, alors cette formule c'est pas celle que vous devez apprendre, mais il y en a une que vous devrez apprendre, que je vais vous donner après, qui vous dit que donc ces particules, ces onduscules sont des ondes avec une certaine longueur d'onde, et cette longueur d'onde elle se calcule en fonction de l'énergie ou de la fréquence. Je vous donnerai la formule que vous devez retenir, c'est pas celle-ci, c'est la formule de De Broglie qui nous dit quelle est la longueur d'onde. Donc on peut calculer pour n'importe quel objet la longueur d'onde de l'onde associée à cet objet. Si je prends un électron, donc un électron par exemple à 1 kilo électron volt, c'est bien, c'est une énergie assez classique pour un électron. Si je calcule sa longueur d'onde, j'obtiens 10-10 mètres, soit 1 angstrom, autrement dit la taille de l'atome. Donc ça vous explique pourquoi l'électron, quand il est à l'intérieur de l'atome, qu'il est bloqué par le noyau dans un espace confiné de 10-10 mètres, alors il se comporte comme une onde et il a des niveaux d'énergie, etc. Par contre, quand je l'observe à une autre échelle, donc avec un compteur GGR, etc., où je suis plus à 10-10 mètres, à ce moment-là, il va agir comme une particule. Parce que c'est une longueur d'onde, c'est une onde qui est toute petite, qui fait 10-10 mètres. Donc quand moi je vais la mesurer, ben je vais dire, ah ben il est là, quoi. Vous comprenez aussi que une onde, ça peut être perçu comme de la matière. C'est un front d'onde, un choc. Hein, ça se voit ça dans les films, quand il y a une explosion, il y a un choc. Le choc de l'explosion, eh ben, il se déplace comme de la matière. On le voit se déplacer comme de la matière. Il arrive sur le vaisseau ou sur l'autre voiture et il y a un choc frontal. D'accord ? On le voit bien ça. Donc, c'est possible qu'une onde puisse se comporter comme une particule si on ne l'observe pas aux échelles de l'onde. C'est compliqué ce que je viens de dire. Bon, c'est pas grave, laissez tomber. Alors, par contre, si je fais ça avec un grain de poussière, alors j'ai pas pris n'importe quelle valeur, un grain de poussière de 1 micromètre, qui fait 10-15 kilos et qui se déplace à une vitesse de 1 mm par seconde. C'est à peu près le grain de poussière, vous savez, qu'on voit là, ça va, il y a le ménage qui a été fait, enfin, en tout cas je ne les vois pas, mais vous savez, en été, quand il y a du soleil, qu'on voit les petits grains de poussière se déplacer là, comme ça, hein, c'est ça à peu près, ces grains-là. Bah, si vous faites le calcul de la longueur d'onde avec la formule de De Broglie, vous trouvez une longueur d'onde de 10-6 angstrom. Plus petit que la taille de l'objet. Donc il est impossible de faire de la diffraction avec cet objet, puisqu'il faudrait le faire. Vous le savez, à quelles conditions on arrive à faire de la diffraction? Qu'est-ce qu'il faut comme condition? Qui c'est qui se rappelle du cours de... Vous savez, dans un mois et demi, vous avez un truc qui s'appelle le bac. C'est quoi les conditions pour avoir la diffraction de l'obstacle par rapport à l'onde?
Ah oui, ça a de la même taille.
Voilà, il faut que l'obstacle soit comme de la même longueur d'onde. Donc si vous voulez faire de la diffraction avec un grain de poussière qui va à 1 mm par seconde avec M... Oula, c'est dégueulasse. Etc. Il va falloir faire passer la grain de poussière dans une fente de 10-6 angstrom. C'est pas possible, le truc il fait un micromètre. Donc vous avez, ça va pas... Ok, donc on ne pourra jamais faire de la diffraction avec un grain de poussière et le grain de poussière il sera toujours particulier. D'accord? Alors en augmentant la vitesse, on va augmenter l'énergie. Donc c'est pas grave, laissons tomber, je ne vais pas improviser, je risque de vous dire n'importe quoi. Donc c'est pour ça que la matière à notre échelle reste bien de la matière. Je pourrais faire le même calcul avec ça, hein, une bouteille, un kilo, etc. Je l'envoie, je ne sais pas quelle vitesse, quelle est l'onde correspondante, ben, je vais trouver un truc tellement petit que je ne peux pas faire de la diffraction avec cette bouteille. D'accord? C'est ce qui fait qu'on n'observe pas ça. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? Eh bien, la dualité onde corpuscule, on peut associer une onde à tout objet matériel. Et la relation de De Broglie. De Broglie, vous avez vu comment ça s'écrit? C'est écrit De Broglie. De plus loin, Broglie. Alors lui, c'est marrant. Lui, il n'était pas parti pour faire de la science, mais il avait un oncle qui avait plein de pognon et qui faisait des expériences scientifiques chez lui. Et il traînait toujours pendant les vacances chez lui. Et finalement, il est devenu un grand théoricien qui a marqué l'histoire. Voilà, donc, relation à retenir, relation de De Broglie, la relation entre la quantité de mouvement et la longueur d'onde. Donc à partir de là, vous pouvez vous amuser, vous rappeler l'exercice du bac avec les deux rugbyman, là, la conservation du quantité de mouvement. Vous vous rappelez de ça? Donc on pourrait prendre un rugbyman, calculer sa quantité de mouvement, et puis on en déduirait sa longueur d'onde. Alors comme H est tout petit, bah, on ne trouverait vraiment pas grand-chose. Donc on n'arrivera pas à faire de la diffraction avec des rugbyman. Ok? Parce que la longueur d'onde est tellement petite qu'il faudrait le faire passer dans des obstacles où ils vous casseront tout l'obstacle. D'accord? Bon, donc là-dessus, on peut inventer plein de sujets de bac où on vous fait calculer lambda et dire oui, c'est une onde, oui, non, c'est pas une onde. Alors, ça va? Vous tenez encore le choc? Un cran plus loin, mais pas maintenant. Je vais plus faire de la compréhension de haut niveau. Je vais juste vous donner des éléments. Comment ça se pense la mécanique quantique? Comment ça se pense la physique quantique? Alors voilà, à 1925, par là, on a la description suivante. Ça en fait, ça sera. Les 10 premières minutes, si vous continuez dans le supérieur en physique, ce sera les 10 premières minutes de votre premier cours du supérieur sur la physique quantique. Ils vont commencer comme ça. Moi, j'essaie juste de vous donner quelques éclairages là-dessus. Un objet de la physique quantique se décrit à l'aide d'une fonction d'onde. Je discuterai après de ce que c'est que cette fonction d'onde. Cette fonction d'onde, elle vérifie une équation qui est l'équation de Schrödinger. Schrödinger, c'est un des Allemands qui a beaucoup bossé là-dessus. Cette équation, elle assure le fait que la physique quantique reste déterministe, parce que cette équation est déterministe. Je vous dis ça, je ne sais pas si ça vous dit grand-chose. Ensuite, on a un autre truc qu'on entend beaucoup parler dans la physique quantique, c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg. C'est le fait que cette fonction d'onde, On ne peut pas en déterminer à la fois sa vitesse et sa position, il faut choisir. D'accord ? Donc l'électron, je peux savoir où il est, mais à ce moment-là, je ne sais plus à quelle vitesse il est. Je peux savoir quelle est sa vitesse, mais à ce moment-là, je ne sais plus où il est. Principe d'incertitude d'Heisenberg. Dernier ingrédient, principe de complémentarité de Bohr. Je peux faire des manips où l'électron devient une onde. Je peux faire des manips où l'électron devient un corpuscule. Mais la meilleure façon de décrire les choses, c'est de le décrire à l'aide de cette fonction d'onde. Donc c'est pour ça que vous lirez dans la vulgarisation par les vrais gens qui font de la physique quantique que la seule façon de penser la physique quantique, c'est pas toutes les blablas qu'on raconte dans les conférences de vulgarisation, c'est de faire des mathématiques et c'est de comprendre ça et de comprendre ça. C'est la seule façon de comprendre les choses. Pour un physicien, la vraie nature de la matière, c'est ça. Donc c'est complètement mathématique. Ah, ça, c'est vous verrez des choses là-dessus. Il y a beaucoup de philosophes qui parlent là-dessus du fait que c'est la nature de la matière du point de vue de la physique, c'est ça. C'est devenu ça au XXe siècle. Alors quel est le sens ? Je vais essayer de vous donner quelques intuitions sur cette fonction d'onde. Schrödinger. Ah, je vous passe l'histoire de Schrödinger parce que c'est assez marrant. Enfin, ouais, bon, c'était un mec du début du XXe siècle qui a fréquenté les milieux surréalistes. Alors, il avait vraiment une vie super surréaliste, quoi. Il partageait sa vie entre sa femme, sa maîtresse et d'autres maîtresses. On ne sait pas combien d'enfants. Enfin, bon, c'était un marrant Schrödinger. Schrödinger, il a pondu l'équation d'onde sans savoir de quoi il parlait, en fait. Ok ? C'est d'autres gens, l'école de Copenhague dont je vais vous parler après, qui ont compris de quelle onde on parlait. En fait, la fonction d'onde telle qu'on la pense en physique quantique, ça mesure la probabilité d'existence. Donc, imaginez, vous allez sonner chez un ami, vous n'avez pas de téléphone portable, on imagine qu'il n'y a pas de téléphone portable, hein, d'accord ? Donc vous sonnez chez un ami, à Feur, sonnez chez lui, il n'est pas là. Vous vous demandez où il est. Vous pouvez résoudre le problème de savoir où il est en prenant une carte de la région. Imaginons que vous l'avez appelé une heure avant sur son téléphone fixe chez lui et il était là. Donc vous pouvez prendre la carte de la région, tracer sur la carte de la région un périmètre possible des zones accessibles en une heure. Bon, imaginons qu'il n'y a pas de voiture, ça ne va pas vous faire un truc trop grand, mais s'il y a une voiture, ça va être beaucoup plus grand. Et en plus, il va y avoir des zones qui vont suivre les autoroutes. D'accord ? L'autoroute est où ? Il est un petit peu plus loin. Il est là. Hein, donc, il va y avoir une zone au bout d'une heure. Si vous êtes en voiture, vous pouvez vous retrouver au-delà de Saint-Étienne. Donc, on va avoir des zones qui vont s'étendre le long des routes. Donc, comme ça, vous allez tracer la carte. Puis après, dans cette carte des zones possibles où votre ami pourrait être, vous allez regarder quelles sont, vous connaissez ses habitudes, donc vous allez regarder où est-ce qu'il a l'habitude d'aller. Donc vous allez mettre des zones de haute probabilité d'existence de votre ami là-dedans. D'accord ? Vous allez dire, bah, je sais pas, d'habitude, souvent il est vers l'hippodrome, donc voilà. Donc je vais mettre 80, je sais pas, je sais qu'il a l'habitude de promener son chien vers l'hippodrome, donc je vais mettre 80% de probabilité d'existence de cet ami vers l'hippodrome, etc. 2% là parce qu'il connaît quelqu'un, 5% là, etc., etc. D'accord ? C'est ce que font les physiciens quand ils cherchent l'électron. Ils mettent des probabilités d'existence de l'électron à certains endroits. Ok ? Et puis après, vous allez à sa recherche, et quand vous le trouvez, bah, vous vous dites pas, c'est parce que je t'ai trouvé là que tu t'es mis à exister là. C'est ça la différence avec la physique quantique. Vous raisonnez en termes de probabilité d'existence parce que vous ne savez pas où il est. Mais la physique quantique nous dit, on raisonne en termes de probabilité d'existence parce que ça n'a pas de sens de se poser la question de savoir où il est quand je ne l'observe pas. Et ça a posé une grosse question. Et ça a été la scission du congrès de Solvay de 1927. Donc c'est un congrès dans lequel on a réuni toutes les grosses pointures de la physique du XXe siècle, dont vous en reconnaissez certains. Ok. Marie. Lui, c'est, je crois que c'est Lorentz. Donc vous connaissez les transformations de Lorentz avec la relativité. En fait, c'est lui qui les a inventées. Lui, vous le reconnaissez. Attendez, il est où ? Je vois pas bien. Lui, vous le reconnaissez ? Planck, celui qui a trouvé la constante. Lui, vous le reconnaissez ? Avec la tête longue comme ça, c'est Niels Bohr. Après, je ne vous ai pas encore montré les têtes, mais vous avez Schrödinger ici et Heisenberg là. Après, il y a Max Born. Donc, ces trois-là sont les inventeurs de ce qu'on appelle l'école de Copenhague, qui est l'école admise maintenant en physique quantique. Et donc, la grosse question qui soulevée par les gens en 1927, c'était est-ce que on décrit l'électron par une fonction d'onde parce qu'on ne sait pas où il est, et qu'en fait il est quelque part, mais sauf juste qu'on n'a pas compris. Et ça, c'était plutôt l'école des matérialistes, avec tous les physiciens de la physique classique du 19e siècle derrière, Einstein, Lorentz, Marie Curie, je ne sais pas trop ce qu'elle pensait de ça, mais voilà, hein, tous ceux qui sont, et aussi Schrödinger aussi, il avait tendance à penser comme ça. Donc là, Einstein, lui, disait, la physique quantique est incomplète, on n'a pas tout compris, il existe des variables cachées, il faut qu'on continue à faire des manips pour les trouver. Comme l'histoire, je vous dis, de l'ami dont on ne sait pas où il est, mais il est quelque part. Ok ? L'idée, alors ce qu'on en a retenu d'Einstein, c'est dire, il n'y a pas de hasard vrai dans la nature, Dieu ne joue pas au dé, c'est ce qu'il disait. Donc, c'est pas que c'est du hasard, c'est pas... Quand je fais une manip de physique quantique et que d'un coup je dis l'électron est là, c'est pas moi qui l'ai fait solidifier là, il était là avant, c'est juste qu'avant je ne l'avais pas vu. C'est ce que pensent les physiciens classiques. Et vous avez l'école de Copenhague, donc avec à leur tête Niels Bohr, Max Born et Heisenberg, qui dit, eh ben non, ça n'a aucun sens de parler de l'électron quand j'en fais pas la mesure. L'électron en tant que particule ou en tant qu'onde n'existe pas, ça n'est qu'une probabilité d'existence quelque part. C'est l'expérimentateur qui effectue une réduction sur la fonction d'onde et qui d'un coup fait que, pouf, on matérialise l'objet à cet endroit-là. Okay, c'est comme si je disais, bah, quand je trouve l'ami à l'hippodrome en train de promener son chien, c'est parce que j'ai monté une manip qui fait que je le trouve à cet endroit-là. Quoi. Mais qu'en fait, il n'était pas là avant que je monte la manip. C'est un peu bizarre, hein. On est bien d'accord. Donc, matérialiste, idéaliste, les deux écoles. Alors, forcément, avec votre intuition de la vie de tous les jours, vous dites, bah, c'est ça, hein. C'est pas ça, hein. Parce que ça, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. On comprend pas comment c'est possible, ça. Mais, alors, ouais, il y a le... Ah, je vais vous parler de ça, l'expérience EPR. Bon, Einstein, c'est un mec qui aimait bien inventer des expériences. Et alors, il faut voir que Bohr, maintenant... Bon, je vous dévoile la fin du film. Maintenant, c'est l'école de Copenhague qui a gagné. Tout le monde pense comme l'école de Copenhague. Mais à l'époque, en 1927, vous aviez trois mecs d'une trentaine d'années, brillants, mais qui avaient des idées un peu folles, face à eux, des papis de la physique qui, eux, étaient solides et qui avaient des arguments super forts. Donc, pour eux, c'était pas facile. Hein. C'est eux qui déprimaient. Là. Max Bohr, il a fait une grosse dépression à un moment donné parce que c'était pas facile quoi, d'être seul et de dire « Oui, je pense que c'est comme ça. » Alors, tout le monde pense l'inverse. Alors, en l'occurrence, Einstein, il propose l'expérience suivante à Bohr, l'expérience de pensée. Il dit « Imaginons deux particules intriquées. » Deux particules intriquées, ça veut dire quoi? C'est deux particules qui sont créées de telle façon à ce qu'elles ont des propriétés complémentaires. Un peu comme si je prenais un papier vert, un papier jaune, je les crée en même temps, je les mets dans deux enveloppes, donc c'est intriqué, et je fais partir ces deux enveloppes à deux endroits différents de la planète. Ok, deux propriétés intriquées. Quand j'observe une des deux particules, et que je fais une propriété, la mesure d'une propriété sur une des deux particules, automatiquement je connais la propriété de l'autre. Mon histoire d'enveloppe, si je donne une enveloppe ici et une enveloppe là-bas, tu ouvres l'enveloppe et tu vois que c'est jaune, bah tu sais que là-bas c'est vert. Ok ? Donc, ce que veut montrer Einstein avec cette expérience de deux particules intriquées dont on fait la mesure à deux endroits différents de la planète, c'est que forcément la valeur de la mesure préexiste à la mesure. Si je mesure une propriété particulière de l'électron là-haut, je connais la propriété particulière ici, et donc soit ça préexiste à la mesure, soit les deux particules communiquent entre elles, soit il y a un moyen de communiquer entre les deux, sauf que Einstein, c'est l'inventeur aussi de la relativité, qui nous dit qu'aucune information ne peut aller plus vite que la lumière, et donc par conséquent, on ne peut pas imaginer qu'il y a un processus qui transmet l'information. Vous voyez, c'est comme si, du point de vue de l'école de Copenhague, quand je distribue mes deux enveloppes, elles sont ni vertes ni jaunes à l'intérieur. Mais au moment où tu l'ouvres et que tu vois du vert, tu as créé un papier vert et donc tu as créé un papier jaune de l'autre côté. Donc soit ça préexistait avant et j'avais pas tout compris comment ça marchait, soit il y a eu un moyen pour faire que d'un coup l'information, ça y est, je suis vert, et donc l'autre qui dit d'accord, bah moi je suis jaune, l'information l'a communiqué. Mais Einstein, il rejette cette idée d'une communication instantanée entre deux points de l'univers à cause de la relativité. Et tout le monde est d'accord avec ça. Ça pose des des grosses questions. Donc, est-ce que finalement la physique quantique serait incomplète? Est-ce qu'il y aurait des variables cachées? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas compris? Alors, quand Einstein propose ça dans les années 30 à Bohr, à l'époque, l'idée de faire des particules intriquées n'existait pas. Enfin, je veux dire, c'est une idée, mais expérimentalement, personne ne savait faire. En 1981, à Orsay, à Paris, le premier à le faire, Alain Aspect, arrive à intriquer des photons. Donc, on peut faire la manip. La manip, elle a été reproduite aussi dans les années. Elle a été reproduite plusieurs fois. Et elle démontre, cette manip, que oui, la théorie quantique est une théorie complète. Il n'y a aucune variable cachée. Il n'y a aucun sens à parler de l'électron quand on ne l'observe pas. Ça remet en cause deux choses fondamentales de notre expérience quotidienne, qui est le réalisme. Les propriétés mesurées existent indépendamment de l'expérimentateur. Ce que je vous disais tout à l'heure sur la voiture, j'ai arrêté de penser à cette voiture, c'est pas pour autant qu'elle a arrêté d'exister. Ou ça remet en cause le principe de localité, c'est-à-dire que tout ce que je mesure ici n'est mesurable qu'ici. Alors qu'en fait, on pourrait imaginer que dès que je fais une mesure ici, ça impacte l'ensemble de l'univers. Donc c'est le principe de localité. Actuellement, le débat n'est pas tranché. Il y a quelques années, quand je parlais de tout ça, je disais non, ça c'est pas ça, on est plutôt là. Mais en fait, j'en sais rien. Plus je lis des papiers là-dessus, il y a des gens qui pensent qu'il faut remettre en cause le réalisme, il y en a d'autres qui pensent qu'il faut remettre en cause le principe de la localité, il y en a d'autres qui pensent qu'il faut remettre en cause les deux. Enfin, en tout cas, le débat est encore en question. En 2007, alors Zellinger, c'est un scientifique très actif dans la dernière décennie, qui fait énormément de manip. Il a réussi à trouver une corrélation entre deux photons distants de 144 mètres. C'est-à-dire deux photons intriqués, on les balance dans des fibres optiques à 144 km les uns des autres, on fait une mesure sur l'un, on trouve que les histoires là de théorie complète, etc., avec l'autre aussi, quoi. D'accord ? Donc vraiment maintenant, on en est vraiment sûr. Je ne peux pas finir la partie, après je vous parle des applications de la physique quantique, mais je ne peux pas vous parler des applications de la physique quantique sans vous parler du chat Schrödinger, parce que tout le monde parle du chat Schrödinger. Donc il faut quand même connaître le chat Schrödinger. On va commencer par laisser Sheldon nous expliquer ce qu'est le chat Schrödinger.
Well, he didn't actually say anything, but when he came back to the apartment, he was doing a dance that brought to my mind that he was in Fantasia.
Oh, that's nice. Anyhow, the thing I wanted to talk to you about is, you know, since Leonard and I have become friends, I was just... Want to sit down?
Oh, I wish it were that simple. You see, I don't spend much time here, so I've never really chosen a place to sit.
Well, choose.
There are a number of options, and I'm really not familiar enough with the cushion densities, airflow patterns, and dispersion of sunlight to make an informed choice.
All right, why don't you just pick one at random, and then if you don't like it, you can sit somewhere else next time.
No, that's crazy. You go ahead and talk while I figure it out.
Okay. Here's the thing. So I've known for a while now that Leonard has had a little crush on me.
A little crush? Well, I suppose so. In the same way Menelaus had a little crush on Helen of Troy.
All right, yeah, I don't really know who they are.
Menelaus was the brother of Agamemnon.
The point is, Leonard isn't the kind of guy I usually go out with.
Leonard isn't the kind of guy anyone usually goes out with. Would you be open to rotating the couch clockwise 30 degrees?
No. What I'm saying is, Leonard might be different in a good way. And obviously, my usual choices have not worked out so well.
The last one worked out well for Kunther Volley. He got a free iPod. Oh, glare.
But on the other hand, if things don't go well with Leonard, I risk losing a really good friend. I mean, I'm guessing he's not looking for a fling. He's the kind of guy that gets into a relationship for, I don't know, like you would say, light years.
I would not say that. No one would say that. A light year is a unit of distance, not time.
Thank you for the clarification.
Draft. You see, people hear the word year and they think duration. Foot pound has the same problem. That's a unit of work, not of weight.
Right, thanks.
It's gonna be a mistake.
Not the first one I've made today.
Okay. I think this will be my seat.
Sheldon, do you have anything to say that has anything to do with, you know, what I'm talking about?
Well, let's see. We might consider Schrodinger's cat.
Schrodinger. Is that the name of the 2A?
No, that's Mrs. Grossinger. And she doesn't have a cat. She has a Mexican hairless, annoying little animal.
Yippee, Sheldon!
Sorry, you diverted me. Anyway, in 1935, Erwin Schrodinger, in an attempt to explain the Copenhagen interpretation of quantum physics, he proposed an experiment where a cat is placed in a box with a sealed vial of poison that would break open at a random time. Now, since no one knows when or if the poison has been released, until the box is opened, the cat can be thought of as both alive and dead. Well, of course you don't get it. I haven't made it yet. You have to be psychic to get it. There's no such thing as psychic. Just like Schrodinger's cat, your potential relationship with Leonard right now can be thought of as both good and bad. It is only by opening the box that you'll find out which it is.
Okay, so you're saying I should go out with Leonard.
No. Let me start again. In 1935...
Voilà, chat Schrödinger. Vous avez compris ? Bon, donc l'idée de Schrödinger en 1937, comme nous l'a expliqué Sheldon, avec son chat, c'est d'inventer une expérience dans laquelle ce qu'on trouve dans l'école de Copenhague, c'est-à-dire, ici on a une source radioactive, et dans l'école de Copenhague, on nous dit, dans cette source radioactive, on lâche ou pas de la radioactivité à un instant aléatoire, et avant que ce soit fait, et tant que ce n'est pas fait, on peut dire qu'à la fois la radioactivité est lâchée et à la fois la radioactivité n'est pas lâchée. Okay ? Parce qu'on est dans le monde quantique, on est dans l'infiniment petit. C'est là où Einstein disait, mais oui, mais Dieu ne joue pas au dé, donc il doit y avoir un truc caché, etc., pour savoir à quel moment ça va être lâché. D'accord ? Et ce qu'a inventé Schrödinger, c'est l'idée que cet objet quantique, donc décrit avec la probabilité d'existence, machin, un truc, tout ce que je vous expliquais, les variables cachées, etc., il n'y en a pas, etc., bon, est relié à un système macroscopique qui fait qu'on va casser une fiole contenant du poison qui va tuer un chat. On met tout ça dans une boîte, on ferme la boîte, et donc, du point de vue de l'école de Copenhague, le chat qui est relié, qui est couplé à la fiole radioactive, eh ben, ce chat... Si on dit que à la fois l'atome a éjecté l'électron, enfin si c'est un électron qui doit éjecter, et à la fois il ne l'a pas éjecté, simultanément, avant qu'on fasse la mesure, c'est ce que nous dit l'école de Copenhague, on dit les deux réalités sont vraies simultanément, tant qu'on n'a pas fait la mesure, et ben donc puisque le chat est couplé, alors le chat est à la fois vivant et mort. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans cet exemple-là, c'est que Schrödinger, quand il donne ça, Schrödinger, il fait partie plutôt de l'ancienne école, ça ne lui plaît pas cette idée, il veut démontrer que cette idée-là, qu'il n'y a pas de variable cachée, est absurde, parce qu'il dit, ce chat, il ne peut pas être à la fois vivant et mort. On dit qu'il est, c'est ce que dit Sheldon dedans, il dit, tant que tu n'as pas ouvert la boîte, tu ne peux pas savoir, c'est ce qu'il veut expliquer quand il explique à, comment elle s'appelle, Penny, qu'il faut qu'elle décide si oui ou non il sort avec lui pour savoir si on y va. Mais ce qu'il veut expliquer, c'est que, et ce que Schrödinger a voulu expliquer, c'est que c'est absurde d'imaginer que le chat est à la fois vivant et mort. Ok ? Donc il y a une variable cachée, il y a quelque chose, il est forcément vivant ou mort à un instant T. Le problème maintenant est résolu. Enfin, résolu, c'est un grand mot parce que c'est là où je vous dis, on n'est pas sûr de tout comprendre. Hein. Dans l'idée que, en fait, un phénomène, quel qu'il soit, est quantique, c'est-à-dire à la fois les deux états, tant qu'il n'a pas échangé d'informations avec l'environnement. Okay, c'est-à-dire, l'électron, on ne sait pas où il est, tant qu'il n'y a pas eu d'échange entre l'électron et son environnement, et c'est là que l'école de Copenhague intervient, et ça n'a pas de sens de dire où il est. Mais dans le cas de l'expérience du chat Schrödinger, le problème est résolu, et très vite résolu. Ce chat, pour être vivant, il faut qu'il ait un certain nombre de réactions chimiques, il faut qu'il respire, il faut qu'il échange de l'air avec l'extérieur, il faut qu'il rayonne, donc il échange un rayonnement électromagnétique avec la boîte. Et donc, de toute façon, le chat échange de l'énergie avec l'extérieur, et échange des informations. Donc, en réalité, le chat, il est soit vivant, soit mort. Et on peut le savoir, même sans ouvrir la boîte, par exemple, en regardant le rayonnement extérieur à la boîte. OK ? Ça veut dire qu'il y a un phénomène de décohérence. On peut avoir des phénomènes quantiques à une certaine échelle. Dès que le système interagit avec son environnement, il y a décohérence quantique. Et à ce moment-là, on retombe sur les phénomènes tels qu'on a l'habitude de les vivre habituellement. Alors néanmoins, c'est pour ça, un système quantique, c'est un système microscopique à basse température pour pas qu'il y ait de rayonnement et d'échange avec le reste. Alors néanmoins, les physiciens ont réussi à monter un peu la taille des objets quantiques. Le record, je crois que c'est en 99, c'est l'équipe de Zellinger. Je vous en ai déjà parlé de Zellinger à Vienne, en Autriche, qui bosse d'ailleurs dans la même université que Schrödinger. C'est la continuité Zellinger. Ils ont réussi à obtenir des figures d'interférence avec des fullerènes à une température très élevée, et donc ça implique une soixantaine d'atomes. C'est-à-dire, on arrive à confiner des états quantiques sur des collections d'atomes qui sont assez grandes. Ok, alors après on en a d'autres. Bon, tout ça, je mettrai. Ça s'appelle des interférences électromagnétiques. Voilà. Donc, la recherche en physique quantique, elle a vraiment atteint des prouesses dans les 20 dernières années. Hein, vous voyez, on est depuis 99 et on arrive de plus en plus à monter la physique quantique vers notre échelle. Donc à observer des trucs vraiment très étranges. Je vous en montrerai tout à la fin.